Vous écoutez, on lit pour vous.
Les faux représentants en immigration, un véritable fléau. Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir. Gurdip avait déjà donné 4 000 $ à une personne qu'il croyait être un consultant réglementé en immigration. À 2 jours de son audience de demande d'asile, un montant crucial pour obtenir le statut de réfugié, le bureau de ce soi-disant consultant l'a contacté pour lui demander encore 2 500 $. C'est alors qu'il s'est rendu compte que le supposé représentant inscrit sur son dossier n'était pas le même à qui il avait versé de l'argent cash et sans reçu. Il a demandé à taire son identité par crainte de nuire à ses démarches d'immigration. C'était d'autres personnes dans la communauté qui me l'avaient recommandé, mais je me suis rendu compte qu'il était totalement faux. C'est ensuite que j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont aussi été victimes de cette fraude, a-t-il raconté au Devoir. Il dit que son dossier a été bâclé et qu'il n'était pas préparé pour affronter l'audience. Sa demande d'asile a ainsi été refusée en 2021 et il demeure dans une situation migratoire précaire depuis lors. Consultant fantôme, faux avocat, usurpateur d'identité de vrais consultants. De plus en plus de faux représentants font payer des services d'immigration sans être autorisés à les dispenser, selon les informations compilées par Le Devoir. Au Québec et dans le reste du Canada, il n'est pas obligatoire d'avoir recours à ce genre d'intermédiaire pour déposer une demande en immigration, quelle qu'elle soit. Mais à partir du moment où quelqu'un facture ce genre de service, il doit en revanche être impérativement autorisé. Avocat, membre du Barreau du Québec, consultant membre du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, CCIC, ou encore notaire à la Chambre des notaires du Québec. Le problème est difficile à appréhender dans son ensemble, notamment parce que plusieurs entités opèrent de l'étranger et en dehors de la loi. Mais s'il n'y a qu'une pointe de l'iceberg à déceler, elle est déjà immense. Dans la dernière année, le CCIC a fait fermer plus de 5 000 pages web et de médias sociaux qui faisaient la promotion de praticiens non autorisés. Sur le terrain, dans un contexte où les restrictions en immigration rendent de plus en plus difficile le renouvellement des permis de travail, d'études ou encore l'accès à la résidence permanente, les faux représentants sont devenus un vrai fléau, dit Louis-Philippe Janard, coordonnateur du volet protection de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. C'est un problème endémique dans certains quartiers, abonde Camille Bonenfant, organisatrice communautaire à la Clinique pour la justice migrante. Lorsque des membres de son équipe se déplacent pour donner des ateliers d'information, c'est presque systématique. Les personnes rencontrées s'approche et nous montre une carte d'affaires d'une personne qui n'est enregistrée nulle part. C'est sûr qu'il y a une augmentation, tranche aussi d'Orijade, qui soulève le problème depuis 20 ans. Il est directeur général de l'Association canadienne des consultants professionnels en immigration et a eu connaissance des plus grandes comme des plus petites fraudes. Il y a des cas qui ont payé des centaines de milliers de dollars à des individus qui leur ont fait miroiter qu'ils pouvaient les emmener au Canada, raconte-t-il. Ou encore, des gens qui ont vendu toutes leurs possessions pour obtenir des papiers qui ne sont jamais arrivés, poursuit M. Jade. Un appartement pour faussement présenter des demandes. Rencontrant leurs clients dans un sous-sol de boulangerie ou au café du coin, ces fantômes remplissent rarement bien les dossiers d'immigration, voire ne les déposent jamais. Récemment, c'est carrément des bureaux clandestins installés dans des appartements qui servaient à faire semblant de produire des demandes d'asile à la chaîne. C'est du moins ce qu'a observé Maryse Poisson, directrice de l'intervention sociale au collectif Bienvenue. pour 200 ou 300 $, donc beaucoup moins cher, des demandeurs d'asile se présentaient pour faire les premières étapes. On leur montrait ensuite une soi-disant preuve du dépôt d'un document très important, le fondement de la demande d'asile, qui se révélait être fausse. La personne quitte en pensant que tout est en règle, mais son dossier est en fait fermé, poursuit-elle. Elle a accompagné cette année au moins une dizaine de victimes de ce type de fraude. D'arnaque en arnaque, les gens perdent tous leurs droits et se ramassent avec une date de déportation, selon son expérience. Les conséquences peuvent en effet être dramatiques. Un immigrant victime d'une fraude par un faux représentant est tenu responsable de sa fausse déclaration par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, qu'elle soit intentionnelle ou non. Ce qu'IRCC entend par fausse déclaration est assez vaste. Parmi les exemples médiatisés, le consultant fantôme pourrait avoir inventé une histoire de persécution de toutes pièces avec l'aval ou non du demandeur d'asile ou encore fabriqué une lettre d'admission dans un cégep à l'insu de son client. La demande peut être refusée ou, si la personne avait déjà un statut, même la résidence permanente, elle peut être carrément retirée. L'immigrant peut même être banni du Canada pendant au minimum 5 ans. Du côté des demandeurs d'asile, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, CISR, confirme voir une hausse de ces dossiers classés sous désistement de demande d'asile. Seulement 934 désistements ont été signalés en 2021 contre plus de 9000 en 2024. Les 3 premiers mois de 2025 indiquent une augmentation encore plus grande si la tendance se maintient le reste de l'année. Madame Poisson fait valoir que ces dossiers sont souvent fermés à l'insu des demandeurs d'asile eux-mêmes. Ce qui me révolte le plus, c'est que les gens n'ont pas la capacité réelle de raconter leur histoire complètement s'ils se font frauder. Pas plus tard que ce matin, une dame s'est présentée avec son enfant. Elle voulait aller voir un médecin, mais on lui a dit que sa couverture médicale était invalide, décrit-elle. Vérification faite, sa demande avait été en effet fermée par le CISR au bout de 45 jours alloués pour déposer le fameux fondement de la demande d'asile. Mais elle ne l'aura appris que 8 mois plus tard. Un autre homme a tout bonnement reçu une convocation pour se faire expulser, alors qu'il ignorait toujours que sa demande d'asile était fermée ou en désistement aux yeux de la CISR, poursuit-elle. Une fois que le désistement est prononcé, ça devient très difficile de sortir la personne de cette situation, note l'intervenante communautaire. Il faut faire une demande de réouverture auprès de la CISR et bien la justifier, un autre processus coûteux. Vous écoutez « Les faux représentants en immigration, un véritable fléau », un texte de Sarah R. Champagne, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir. Pourquoi se font-ils avoir? Il est aussi difficile pour ces migrants floués de porter plainte qu'on vienne tous ces intervenants près du terrain. Souvent, les victimes possèdent très peu d'informations sur la personne qui les a flouées. Parfois, on a seulement Eduardo ou Salim comme prénom, souligne Madame Poisson. D'autres fois, c'est l'adresse qui manque et le faux consultant ou avocat ne laisse pas beaucoup de traces en ligne, dit Madame Bonenfant. Les imposteurs ciblent clairement les personnes les plus vulnérables aux yeux de la bâtonnière de Montréal, Valérie Assouline. Les gens arrivent au Québec dans un contexte de précarité parfois, et ils sont confrontés aux enjeux de ne pas parler la langue, de ne pas avoir de repères, puis sont exposés à des gens sans scrupules qui se font passer pour des avocats. C'est aussi un symptôme du manque de représentation en immigration que les récentes coupes à l'aide juridique spécialisée, notamment à Québec, ont aggravé, dit cette dernière. Le contexte plus large est qu'il manque d'avocats et de consultants. ça crée une possibilité pour des gens qui veulent se prétendre comme tels. À travers la diminution des services juridiques, la pression sur les ressources et le sentiment d'urgence, cela crée un contexte propice aux abus et aux fraudes, écrit aussi un rapport de recherche dirigé par la professeure Marie-Jeanne Blain et porté par la clinique juridique Solutions Justes. À cela s'ajoute une volatilité des changements des règles et des procédures qui peut engendrer de la mésinformation et de la désinformation. Gurdip, lui, raconte avoir surtout peur de dénoncer, car il perçoit le faux consultant frauduleux comme puissant parmi ses compatriotes. « Je veux dire aux gens d'éviter cette personne, » dit-il simplement. Il n'y a pas beaucoup d'incitatifs à dénoncer. Les gens sont tellement dans d'autres urgences. Ils veulent régler la suite de leur dossier ou trouver une solution, explique Maryse Poisson. Pire, ils se perçoivent parfois comme complices de ces pratiques. Ils se disent souvent « Qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Ce que j'ai à perdre est qu'ils vont me mettre dans un avion et me déporter chez nous. Donc, je suis prêt à jouer toutes les cartes possibles, même si ces cartes-là n'ont presque pas de chance de gagner, avance Dorijade. Ça devient extrêmement difficile d'aller épingler les praticiens non autorisés. Un portrait laborieux. Il n'y a pas une entité unique responsable de recueillir toutes les plaintes en la matière au pays, ce qui complique la donne pour obtenir un portrait précis. Le ministère québécois de l'Immigration confirme avoir reçu des dénonciations à ce sujet, sans pouvoir indiquer leur nombre exact. Il n'y avait que 6 enquêteurs à son service en date de juin 2024. L'an dernier, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, confirme avoir enquêté sur 9000 potentielles fausses déclarations par mois concernant des visas temporaires ou de visiteurs. Sur le total, le ministère fédéral est cependant incapable de nous dire combien concernaient des consultants ou des avocats fantômes. IRCC renvoie aussi la balle au CCIC lorsque questionné par Le Devoir. Cet organisme réglementaire des consultants ne peut pourtant agir, c'est-à-dire recevoir et traiter des plaintes, que pour ses membres agréés et non pas pour ceux qui ne sont pas autorisés. Le Centre antifraude dit de son côté recevoir de l'information sur un très grand nombre de sites Internet, mais n'avoir pu confirmer que 164 victimes de fraude en immigration en 2024, pour un total de 1,8 million de pertes. Là encore, les fraudes peuvent concerner ou non la fausse représentation. Le barreau de Montréal indique que plus du tiers des dossiers pour exercice illégal du droit ouvert durant l'année dernière jusqu'au 31 mars 2025 concernaient l'immigration. Sur le total, 23 ont fait l'objet d'une recommandation de poursuite, précise-t-on. Peu importe le domaine du droit, il y a également une hausse des signalements et les immigrants sont surreprésentés parmi les victimes. Enfin, l'Agence des services frontaliers du Canada rapporte avoir porté des accusations dans 87 cas pour un total de 168 consultants non autorisés entre 2019 et 2025. De ces 168 personnes, la grande majorité sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents, note l'agence. C'était les faux représentants en immigration, un véritable fléau, un texte de Sarah R. Champagne, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir. Des usurpateurs aux faux avocats, la jungle des consultants en immigration. Un texte de Sarah R. Champagne et Félix Pedneau, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir. Un vrai consultant aux trousses d'un fraudeur qui a usurpé son identité. Un service d'immigration qui a été sanctionné plusieurs fois et qui donne certaines informations inexactes. un homme qui se fait passer pour un avocat sans en avoir le titre. Difficile de s'y retrouver dans la jungle de l'immigration, entre ceux qui permettent réellement d'accéder aux rêves canadiens et ceux qui exploitent les désespoirs. Voici trois cas montrant la complexité et l'étendue du problème. Les fantômes qui usurpent de vraies identités. Toutes les instances réglementaires ou gouvernementales recommandent de vérifier dans les registres en ligne si un représentant est bel et bien enregistré. Mais, même en prenant cette précaution, certains pourraient avoir des surprises, comme l'ont appris à leurs dépens, des clients d'un consultant bien en règle. En 2021, Charlemagne M. Ferrat reçoit le message d'un homme qui dit avoir été en contact avec lui, mais lui signale une page Facebook différente de la sienne. C'est alors qu'il comprend que son identité a été usurpée. L'autre page est presque identique à la sienne. Adresse physique, nom complet, l'usurpateur utilise même ses photos personnelles et copie ses publications. Mais en y regardant de plus près, on voit que le consultant fantôme a utilisé une adresse courriel et un numéro de téléphone différents, en plus de se proclamer avocat. Aussi, plutôt que d'utiliser le véritable nom de l'entreprise Global M. Ferrat Immigration, la page s'intitule M. Ferrat Global Immigration. Une inversion qui ne change rien au fait que le moteur de recherche du populaire réseau social nous y amène systématiquement. Quand le client demandait un appel vidéo, il refusait, note le vrai M. M. Ferrat depuis son bureau de Montréal. Il a donc signalé la page Facebook, mais près de 5 ans plus tard, elle est toujours en ligne, avec une grande source de frustration pour Charlemagne M. Ferrat. C'est surtout de l'éducation qu'on peut faire, constate l'homme. Comme il ignore depuis quel pays opère l'imposteur, une plainte à la police n'aurait qu'un effet limité, ajoute-t-il. Monsieur M. Ferrat a ainsi préféré publier à plusieurs reprises des vidéos dans lesquelles il met ses clients potentiels en garde. « Je leur dis de ne jamais transmettre d'argent avant d'avoir signé un contrat et d'exiger la vidéo s'il y a un appel. » Il a aussi collaboré avec le barreau de Montréal, qui a indiqué la supercherie sur son site, mais sans pouvoir poursuivre l'imposteur. Malheureusement, c'est un phénomène qui se répand beaucoup. « J'ai des collègues qui ont subi le même sort », observe-t-il. Il s'est notamment rendu en République démocratique du Congo pour donner un séminaire d'information sur les différents programmes d'immigration et a constaté sur place que certains de ces fantômes ont même des bureaux et offrent des voies d'accès au Canada qui n'existent tout simplement pas, comme une loterie de visas canadiens, un processus qui existe par ailleurs aux États-Unis. Il est ainsi parfois difficile de distinguer le vrai du faux, même pour un œil le moindrement avisé. Un autre site, cabinetimmigration.com, a déjà été établi comme frauduleux. Il affiche la tête souriante d'une personne qui se dit avocat en immigration, Abedelp. Or, cet homme ne semble qu'une coquille fictive et a déjà sévi sur une autre URL, celle-là détectée par le barreau de Montréal et fermée depuis. Une entreprise sanctionnée qui assure être conforme. Dans d'autres cas, des entreprises sanctionnées par le passé disent fonctionner en toute légitimité aujourd'hui, ce qui n'empêche pas le client potentiel de devoir faire le tri dans les informations qu'elle donne. L'entreprise SOS Hub Canada Inc. figure notamment au tableau des condamnations publiées par le barreau de Montréal pour avoir donné lieu à croire que la compagnie est autorisée à remplir les fonctions d'un avocat. Elle a aussi reçu 32 constats d'infraction de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, dont 21 pour avoir exploité une agence de placement de personnel sans détenir le permis maintenant obligatoire. Le dirigeant de l'agence, même s'il a plaidé coupable en justice à ses accusations, nie toute pratique illégale en entrevue. Le bureau a toujours eu des avocats, assure Patrick Millian Cadet. Il dit avoir accepté de plaider coupable et a ainsi payé une amende de 10 000 $ pour exercice illégal du droit afin d'éviter de longues procédures judiciaires. Nous, on essaie de collaborer pour montrer qu'on n'est pas de mauvaise foi. Une avocate et une consultante, enregistrées en bonne et due forme, ont en effet confirmé au devoir être aujourd'hui employées par l'agence. Qui travaillait pour cette entreprise au moment où le barreau de Montréal a décidé d'intenter une poursuite? C'est moins clair. M. Cadet justifie la condamnation par le fait qu'il utilisait en 2022, la période visée, le nom « cabinet d'avocat ». Cette appellation n'est pas encadrée par la loi, c'est plutôt celle du mot « avocat », qui ne doit pas laisser planer de doute. Il ne devait pas l'utiliser à son nom, lui qui n'est pas inscrit au barreau. Nous ne sommes pas un cabinet qui profite des gens. Nous sommes vraiment dans la légalité, affirme-t-il au téléphone. Vous écoutez, des usurpateurs aux faux avocats, la jungle des consultants en immigration, un texte de Sarah R. Champagne et Félix Pedneau, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir. Information déficiente. Reste que, lorsque notre journaliste se présente à une séance d'information gratuite de SOS Hub, les informations qu'il reçoit ne sont pas exactes. Une conseillère lui indique qu'il peut parrainer sa conjointe fictive du Burkina Faso en 8 à 12 mois, alors que les délais actuels sont de 37 mois au Québec et tendent à s'allonger avec les quotas du gouvernement caquiste. Je peux vous dire que ça tourne autour d'une année, pas des années, non, non, le rassure à tort l'employé. Au fil des 20 minutes que dure l'entretien, elle suggère aussi que la femme en question pourrait demander l'asile. Une femme qui a un danger comme son père ou son conjoint peut demander l'asile, dit-elle. La violence basée sur le sexe est un véritable motif d'asile, mais pour atterrir au Canada, il faut au minimum un visa de tourisme pour les Burkinabés dont l'obtention prend au minimum 100 jours et non pas un mois comme elle le prétend. Jusque-là, aucun frais n'ont été réclamés, ce qui rend la consultation tout à fait légale, même si la qualité des informations n'est pas au rendez-vous. La directrice des ressources humaines, ainsi que le dirigeant principal, mettront sur le compte de l'inexpérience de l'employé les informations erronées données. Écosystème. Quant au fait de ne pas être enregistré comme agence de placement, M. Cadet dément aussi sa responsabilité. Il a néanmoins plaidé coupable à 21 infractions, parce que l'avocat a dit que les amendes n'étaient pas élevées, se justifie-t-il au téléphone. Les dossiers de la Cour du Québec montrent que, sous le couvert de facturer des services d'immigration à des entreprises comme Tim Hortons ou les boucheries Alcare, SOS Hub plaçait des employés sans détenir de permis. Des feuilles de temps et des décharges signées par les travailleurs, où ils autorisent un prélèvement sur leur salaire, ont été saisis par la CNESST comme preuve pour montrer que l'entreprise agissait comme leur véritable employeur. L'entreprise ne possède à ce jour pas de permis pour exploiter une agence de placement. Elle affichait encore récemment sur Facebook des postes de superviseur de services alimentaires, de chauffeur ou de mécanicien de poids lourd. M. Cadet se décrit plutôt comme une sorte d'intermédiaire qui aide leurs collaborateurs à recruter, sans compensation financière, au même titre que des associations à but non lucratif, illustre-t-il. Un faux avocat condamné ressurgit 20 ans plus tard. En 2006, année où il fut le premier faux avocat à recevoir une peine de prison, il avait été déjà condamné 11 fois depuis 1995, dont dans plusieurs affaires liées à l'immigration. Le nom de cet homme, qui exerce illégalement le droit, Murat Damas, refait surface l'année suivante en 2007. Il est reconnu coupable de 42 chefs d'exercice illégal du droit et condamné à une amende totale de plus de 300 000 $, est-il rappelé dans un bulletin du barreau du Québec. Les dossiers de cour correspondants ont toutefois été détruits, a-t-on indiqué au Devoir. Près de deux décennies plus tard, ce contrevenant récalcitrant, comme le décrivait le barreau en 2006, ressurgit. Il est à nouveau condamné en 2024 à un total de près de 27 000 $ d'amende, notamment pour avoir fait ou prétendu faire les actes d'un avocat. Les infractions consultées par le Devoir concernent pour la plupart des demandeurs d'asile. M. Damas s'est présenté en tant qu'avocat devant la Commission d'immigration et du statut de réfugié, CISR, sans être inscrit au barreau. Il a aussi déposé des appels en cour fédérale et au moins une demande de résidence permanente pour motif humanitaire à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. On lui reproche en outre d'avoir utilisé du papier à en-tête qui portait la mention « Damas et associés, avocats, SENCRL ». Ce nom est bel et bien inscrit au registre des entreprises en février 2023 sous le nom Murat Damas, le M ajouté à son prénom. À la case « Activité » dans ce registre, il est inscrit sans dissimulation « Études d'avocat ou de notaire, conseiller en loi, conseiller juridique, membre du barreau du Québec ». Le même nom d'entreprise et le même reproche de l'utilisation du titre « avocat » dans ses correspondances figuraient déjà dans les infractions il y a près de 20 ans. Il faisait courir des dangers bien réels, avait alors illustré l'avocate Magali Fournier, notamment en envoyant une mise en demeure en 2005 pour sommer une personne de quitter le Canada. On peut imaginer sans peine, déplore l'avocate, ce qu'une personne originaire d'Haïti, en phase d'obtenir sa citoyenneté canadienne et ne maîtrisant pas nécessairement le français, peut vivre comme cauchemar lorsqu'elle reçoit une telle lettre, avait alors confié Maître Fournier au journal du Barreau. Le Devoir a tenté de joindre M. Damas, sans succès, notamment par courriel, par téléphone et par les réseaux sociaux. L'avocate à son dossier, qui affirme ne plus le représenter, confirme lui avoir remis nos coordonnées. L'homme arrivé d'Haïti au début des années 1990 était bel et bien inscrit au barreau de Port-au-Prince, comme il fera valoir en cour en 2006. Le barreau du Québec lui avait signifié en 2000 qu'il ne reconnaissait pas d'équivalence de diplôme et qu'il devait ainsi suivre une formation professionnelle complète et réussir l'examen du barreau. La confiance. Le recours à un faux avocat par de nouveaux arrivants n'est malheureusement pas si rare dans la communauté haïtienne, note Franz André, coordonnateur du Comité d'action des personnes sans statut, CAPSS. Les gens ont tendance à faire confiance à un autre Haïtien, une personne recommandée par la famille ou les connaissances, expose-t-il. Il dit avoir aidé une femme à obtenir un remboursement d'un autre homme qui se prétendait faussement avocat, et plus récemment, un homme dont la demande de permis de travail n'a jamais été envoyée. C'est vraiment dommage, car les gens n'osent pas faire de plainte, et sans plainte, il ne peut rien se passer, note M. André. C'était « Des usurpateurs aux faux avocats, la jungle des consultants en immigration », un texte de Sarah R. Champagne et Félix Penneau, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir.
Des trésors d'inventivité pour prolonger la mission. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse. Leur mission devait durer 5 ans, mais près d'un demi-siècle après leur lancement, les deux sondes Voyager sont toujours au travail. Une poignée d'ingénieurs de la NASA déploient leur grand savoir-faire pour les maintenir opérationnels. Les deux sondes, lancées en 1977, ont encore en réserve de 10 à 15 ans d'hydrazine, carburant pour les moteurs. En revanche, le plutonium, dont la décomposition produit de la chaleur qui alimente les appareils en électricité, s'épuise rapidement. Si on arrive au point où il n'y a plus assez de plutonium, ce sera une victoire, dit Karim Badaroudin, responsable technique de la mission Voyager à la NASA. Ça voudra dire qu'on a réglé tous les autres problèmes de vaisseaux spatiaux beaucoup plus vieux que la durée prévue de leur mission. Plus récent pépin, Voyager 1 a connu des problèmes de communication de décembre 2023 à avril 2024. Nous avons convoqué une douzaine d'experts de la NASA sur les antennes, les logiciels, la mémoire et le matériel électronique, hardware, dit M. Badaroudin. Finalement, nous avons compris par élimination que c'était un problème de corruption d'une unité de mémoire de l'ordinateur central. Il a fallu modifier tous les logiciels qu'il utilisait. Le moment Eureka est survenu quand un message répétitif, 333B, a été observé, enfoui dans des communications incompréhensibles. Habituellement, les ingénieurs de la NASA ne souscrivent pas à une maxime populaire chez les informaticiens. Tester, c'est douter. Une stratégie qui consiste à régler les problèmes après la mise en ligne d'un nouveau logiciel. À la NASA, nous sommes des champions du doute. Nous testons encore et encore les changements de logiciel pour éviter les mauvaises surprises dans l'espace. Mais avec les Voyager, nous ne pouvons pas tester. Nous devons nous fier à nos analyses. C'est difficile pour la plupart d'entre nous. Dans certains cas, les modifications peuvent être testées sur Voyager 2, qui est moins loin que sa jumelle. Chaleur. La dégradation du plutonium signifie que les sondes perdent 4,5 watts par année. Jusqu'à maintenant, on a pu enlever l'alimentation aux instruments non nécessaires, comme l'antenne de transmission à haut débit, qui requiert des antennes de réception terrestre beaucoup plus grandes que ce que nous avons, et les caméras qui, de toute façon, ne servent à rien parce qu'il n'y a pas assez de lumière, dit M. Badaroudin. Un système de protection contre les surtensions a aussi été abandonné. Linda Spilker, responsable scientifique de Voyager, entrevoit qu'il faudra bientôt utiliser en alternance certains instruments scientifiques. On veut aussi minimiser le chauffage des lignes d'alimentation en hydrazine. Le problème, c'est que dans certaines de ces lignes, les thermomètres ont une grande incertitude. Donc, on utilise peut-être plus de chauffage que nécessaire. Nous essayons de réduire cette incertitude en extrapolant à partir de thermomètres ailleurs sur les sondes. Un autre miracle est survenu au printemps, la résurrection d'un moteur de Voyager 1 laissé pour mort en 2004. Il ne sera pas tout de suite utilisé, mais permettra de prolonger la durée de vie de la sonde. Les réservoirs d'hydrazine ont des ballons de silicone pour maintenir la pression en apesanteur. Or, la NASA s'est rendu compte, il y a 10 ans, que les silicones se dissout dans l'hydrazine. Ça contamine le carburant et ça laisse des dépôts qui encrassent les moteurs, dit M. Badaroudin. Certains sont à plus de 90 % bouchés. Le moteur, qui ne sert plus depuis 2004, avait un problème de chauffage. La température était rendue à zéro alors qu'elle devait être de 170 degrés centigrades, dit l'ingénieur. Ça créait des risques d'explosion parce que l'hydrazine s'accumulait avant de s'allumer. À l'époque, on pensait que les sondes n'avaient que quelques années de vie utile, alors on n'avait pas enquêté sur ce problème de chauffage. Soupçonnant un bug informatique, l'équipe s'est penchée sur le problème l'hiver dernier et a conclu qu'il pouvait s'agir d'une inversion d'octet dans le logiciel de chauffage. Pour confirmer si c'était bien le cas, Voyager 1 a été orienté avec plus de précision qu'à l'habitude pour pouvoir fermer le moteur actuel pendant 45 minutes. On a eu une fenêtre de 15 minutes pour vérifier que le chauffage revenait. Maintenant, on a un moteur de rechange. Les sondes ont 16 moteurs chacune pour l'orientation sur 3 axes. Le mystère de 2020. L'un des mystères des dernières années est une hausse du champ magnétique et de la densité de plasma autour de Voyager 1. On pensait au départ que c'était lié à une éruption solaire, mais ça dure depuis 5 ans. On espère pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans les prochaines années. Cette zone pourrait être liée à une forme irrégulière de l'héliopause, la limite que ne franchissent pas les particules interstellaires, le vent interstellaire, en provenance d'autres étoiles. Les astronomes pensaient que l'héliopause était une limite bien précise, mais les mesures des deux Voyager semblent montrer que la zone où les vents solaires et interstellaires se rencontrent est beaucoup plus étendue que prévu. Et donc, que Voyager 1 n'a pas encore atteint la zone de vent interstellaire pur qu'elle pourrait toucher, selon certaines estimations, dans 5 ans. Travailler jusqu'à 84 ans. Le premier responsable scientifique du programme, Ed Stone, n'a pris sa retraite qu'en 2022, à 84 ans, après 50 ans à s'occuper des deux sondes. Et il est mort 2 ans plus tard. Il m'a passé le flambeau quand sa femme m'est tombée malade, dit Mme Spilker, qui a travaillé 30 ans sur la mission Cassini. À ce moment, je pensais moi-même prendre ma retraite. J'ai 70 ans. Pense-t-elle rester jusqu'à la mort des deux Voyager? Certainement jusqu'en 2027, pour les 50 ans. Après, on verra. J'ai un bras droit très compétent, Jamie Rankin, et j'ai 10 merveilleux petits-enfants que j'aimerais voir plus. La découverte des sondes. Les deux sondes devaient simplement explorer Jupiter et Saturne, qu'elles ont atteintes entre 1979 et 1981. Mais Voyager 2 a aussi pu explorer Uranus en 1986 et Neptune en 1989. C'est la seule fois que les planètes les plus éloignées du Soleil ont été explorées par une sonde. Elles ont traversé l'héliopause, la limite où se rendent les particules du Soleil, en 2012 pour Voyager 1 et en 2018 pour pour sa jumelle. Jusqu'à 2012, on ignorait où se situait l'Héliopause. Outre les premières photos des quatre planètes géantes et une célèbre photo de la Terre d'une distance de 6 milliards de kilomètres en 1990 par Voyager 1, qui a été nommée « point bleu pâle », les sondes ont révélé que la Lune jovienne, LO, a des volcans. Uranus et Neptune ont aussi des anneaux. Jupiter a une forte activité de foudre. Les lunes joviennes Europe et saturnienne Encelade ont des océans sous une couche de glace. La lune neptunienne Triton a des geysers de méthane. En savoir plus, source NASA. 25 milliards. Distance en kilomètres entre Voyager 1 et la Terre. 21 milliards. Distance en kilomètres entre Voyager 2 et la Terre. 470 watts. Puissance des sondes Voyager à leur lancement. 220 watts, puissance actuelle des sondes Voyager. 2003, dernière communication de Pioneer 10, lancée en 1972. 1995, dernière communication de Pioneer 11, lancée en 1973. C'était des trésors d'inventivité pour prolonger la mission. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse.
Casse-tête, les bienfaits pour le cerveau. Un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 26 février 2025 dans Québec Science. Les casse-têtes portent vraiment bien leur nom, car cette activité ludique fait travailler plusieurs zones du cerveau simultanément. À vos morceaux! En 2020, durant la première période de confinement, le fabricant de casse-têtes Ravensburger, un des plus gros acteurs de l'industrie, a vu ses ventes augmenter de 370% aux États-Unis. L'isolement et le besoin de s'éloigner des écrans après de longues journées de télétravail ou d'école à la maison ont incité de nombreuses personnes de tous âges à renouer avec ce passe-temps ou à le découvrir. Depuis, bien que la vie ait repris son cours normal, l'engouement ne s'est pas tari. Ils sont encore plus populaires que pendant le confinement parce que les gens qui ont commencé à en faire à cette période continuent, affirme l'historienne des casse-têtes, Anne Williams, également professeure émérite d'économie au Bates College dans le Maine. Cette Américaine née à Montréal a notamment publié l'essai « The Jigsaw Puzzle, Piecing Together a History » qui retrace l'histoire de ce jeu de patience. Sur les réseaux sociaux, diverses célébrités allant du comédien québécois Théodore Pellerin à l'écrivain Stephen King en passant par des membres du clan Kardashian et l'acteur hollywoodien Hugh Jackman, ont partagé des clichés les montrant avec le fruit de leur labeur. Il y a de quoi se réjouir de la montée en popularité des casse-têtes. Derrière son apparente simplicité, cette activité mobilise de nombreuses habiletés cognitives, démontre une étude allemande publiée dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience en 2018. Menée par le chercheur en neurosciences et en psychiatrie Patrick Fissler, alors à l'Université d'Ulm, cette étude est la première à s'être penchée rigoureusement sur les effets des casse-têtes sur le cerveau, selon le scientifique. On peut notamment y lire que la régulation des émotions pénibles par la pratique des casse-têtes pourrait prévenir des états de stress chronique qui peuvent avoir un impact négatif sur le vieillissement cognitif et la démence à long terme, rien de moins. Attention, prévient toutefois le chercheur, ces effets varient d'une personne à l'autre. Pour certains de nos participants, c'était très relaxant, mais pour d'autres, ça restait une activité frustrante ou carrément désagréable, expose celui qui est désormais affilié au service psychiatrique de Turgovie, en Suisse. Effet thérapeutique. Chez les personnes de la première catégorie, les bienfaits des casse-têtes sur la santé psychologique sont indéniables. Quand mon fils de 21 ans est décédé en 2018, c'est la seule chose que j'étais capable de faire et qui m'apaisait. Tout le reste me demandait trop de concentration. Je n'ai pas arrêté depuis et ça m'aide encore, confie Sonia Boivin, une adepte de casse-tête qui réside à Sherbrooke. Ce fut ma thérapie, souligne Micheline Plamondon, qui a traversé un deuil semblable. Plusieurs mordus de puzzles soutiennent que ce loisir leur permet de ralentir et de se détendre. Pour Chantal Comtois, une sexagénaire, il s'agit de la seule activité au monde qui me permet de me vider complètement la tête. C'est un passe-temps qui me fait décrocher complètement, soutient quant à elle Marie-Josée Vinet, une retraitée du milieu de la santé qui est tombée sous le charme de ce passe-temps pendant la pandémie. Placer un morceau de casse-tête au bon endroit est perçu comme une récompense par le cerveau. Il sécrète alors de la dopamine, un neurotransmetteur qui procure un sentiment de satisfaction. C'est aussi une tâche qui requiert une grande concentration sur une longue période, ce qui maintient un état semblable à de la méditation, ajoute Patrick Fissler. Bien qu'il contribue à la détente, les puzzles ne peuvent se substituer aux anxiolytiques pour traiter les troubles anxieux, nuance toutefois le neuropsychologue québécois Mathieu M. Blanchet, qui se spécialise dans l'évaluation des troubles neurodéveloppementaux et des troubles neuroacquis. Leurs bienfaits sont vraiment dans l'effet du moment présent. C'est un moment d'arrêt où il n'y a pas de pression, avance-t-il. Ça amène le cerveau dans une phase de pleine conscience. Le cerveau peut alors enfin se mettre à relaxer, ce qui permet au corps de se désactiver, de se désengager et de moins sécréter de cortisol, l'hormone du stress. Stimulation multiple. Déplorant le peu d'intérêt à financer ce genre d'études puisque les gens font déjà des casse-têtes, Patrick Fissler a pu mener son projet grâce au soutien financier du fabricant Ravensburger, qui n'a nullement été impliqué dans le processus, sauf pour fournir les casse-têtes employés par les participants et participantes. L'étude a été menée auprès de 100 personnes de plus de 50 ans, peu familières avec cette activité. Toutes ont reçu de l'information sur la prévention du déclin cognitif et ont signalé les changements qu'elles ont apportés, ou pas, à leurs habitudes de vie. En même temps, la moitié de ce groupe devait faire des casse-têtes pendant 5 semaines à raison d'au moins 1 heure par jour. Les cobayes ont assemblé en moyenne 3589 pièces en 49 heures. De cette analyse, nous avons établi une très forte corrélation. Les personnes qui ont fait beaucoup de casse-tête ont de meilleures habiletés cognitives, poursuit le chercheur, qui a soumis les cobayes à une série de tests standardisés. Cela s'explique par le fait que la pratique des casse-tête stimule jusqu'à 8 fonctions cognitives simultanément, révèlent les résultats. La perception visuelle, reconnaître des objets et des motifs, la praxie constructive, reconstituer un tout à partir d'éléments séparés, la rotation mentale, faire pivoter mentalement les pièces, la rapidité cognitive et le balayage visuel, trier les pièces, le raisonnement perceptif, intégrer différentes informations pour élaborer des stratégies, la flexibilité cognitive, alterner différentes stratégies, ainsi que la mémoire de travail et épisodique, retenir l'emplacement spatial et les images du puzzle. Lorsqu'on regarde un morceau de casse-tête, l'information se rend d'abord dans les yeux pour ensuite atteindre le lobe occipital du cerveau. De là, elle circule dans la voie ventrale et la voie dorsale du cerveau. La première traite l'image et la deuxième, son emplacement. C'est un travail très complexe et stimulant pour le cerveau car il doit intégrer ces informations pour s'en servir par la suite, décrit Patrick Fissler. Signe que les casse-têtes sont bien plus qu'un simple passe-temps, ils servent aussi dans le cadre du test Wechsler, la référence internationale pour évaluer l'intelligence et établir des diagnostics neurologiques. Mathieu M. Blanchet les emploie d'ailleurs régulièrement dans sa pratique. Un des éléments de cette batterie de tests consiste à résoudre un casse-tête, explique celui qui exerce dans un cabinet à Boucherville. On montre aux gens un casse-tête de 6 morceaux, mais seulement 3 d'entre eux sont bons. Les patients doivent établir lesquels colleraient ensemble. Ça permet d'analyser la capacité de résolution de problèmes ainsi que les capacités d'adaptation, de flexibilité et de rotation mentale. On peut évaluer beaucoup de fonctions ainsi. Vous écoutez Casse-tête, les bienfaits pour le cerveau. Et chez les enfants? Les casse-têtes ont initialement été conçus comme un outil éducatif pour les enfants au milieu du 18e siècle. Ils sont encore aujourd'hui utilisés à des fins pédagogiques, souligne l'historienne Anne Williams. Ils travaillent la dextérité manuelle, la reconnaissance des couleurs et des formes, et ils permettent aux enfants d'apprendre la patience ainsi que la persévérance. Peu d'études scientifiques documentent leurs effets chez les plus petits, déplore Patrick Fissler. C'est dommage et étonnant parce qu'il s'agit d'un des jeux les plus communs, note-t-il. Seules 3 études ont été publiées entre 1990 et 2014 et elles font une corrélation entre la pratique du puzzle et le développement des compétences spatiales chez les jeunes enfants. Plus récemment, en 2020, une étude de l'Université d'East Anglia au Royaume-Uni, publiée dans la revue Child Development, a établi à 4 ans l'âge où les enfants font des casse-têtes en analysant les images sur les morceaux et non en y allant simplement par essai et erreur. On voit que plus les jeunes enfants en font, meilleurs ils sont dans les tâches de rotation mentale, observe pour sa part Mathieu M. Blanchet. Pas d'effet miracle. Mais il faut prendre l'activité au sérieux et s'engager à long terme si on veut qu'elle ait un effet bénéfique sur le cerveau. Patrick Fissler et son équipe ont ainsi calculé qu'une personne doit assembler au moins 9100 morceaux de casse-tête par année pour en ressentir les bienfaits sur le plan cognitif. La recherche démontre par ailleurs que les bénéfices sont directement liés au niveau de difficulté du puzzle. Ainsi, mieux vaut faire 9 casse-têtes de 1000 morceaux par année que 90 de 100 pièces. Chez les personnes âgées, les résultats de l'étude menée par Patrick Fissler avancent l'hypothèse qu'en stimulant plusieurs zones du cerveau, les casse-têtes auraient le potentiel de ralentir le déclin cognitif, ainsi que les symptômes de démence et d'Alzheimer. Chantal Thibault, une adepte de ce loisir, constate personnellement les bienfaits qu'il a chez sa mère, qui souffre d'Alzheimer. « Je lui apporte 2 casse-têtes de 300 morceaux par semaine. Il renforce sa mémoire, car ils obligent son cerveau à se souvenir des formes, des couleurs et des motifs. » Bien entendu, cet effet est limité. On ne peut pas arrêter le déclin cognitif, mais on peut le ralentir ou stabiliser la situation, surtout si on a des prédispositions à la démence ou à l'Alzheimer. Pour une personne en début d'Alzheimer, faire des casse-têtes est un bon facteur de protection, mais ce n'est pas un remède miracle, soutient Mathieu M. Blanchet. Il rappelle que les entraînements cognitifs doivent aller de pair avec une hygiène de vie saine qui comprend notamment une alimentation variée, un sommeil régulier, de l'activité physique et des interactions sociales. À vos marques, assemblez! Cette lecture vous a donné envie de vous lancer dans la résolution d'un casse-tête? Avant de commencer à trier des centaines de petits morceaux, voici quelques recommandations pour maximiser votre plaisir. Selon l'historienne et collectionneuse Anne Williams, 3 critères s'imposent. D'abord et avant tout, il y a l'image. Vous ne voulez pas passer des heures à assembler une image qui ne vous plaît pas. Ensuite, il faut trouver un casse-tête qui correspond à ses capacités, c'est-à-dire qui représente un certain défi, mais qui ne sera pas écrasant. Le plus gros casse-tête offert sur le marché comporte 60 000 morceaux. Je ne voudrais jamais le faire. Enfin, la coupe des pièces est aussi à considérer. Certains nouveaux casse-têtes ont des contours irréguliers ou des formes particulières, ce qui peut jouer sur le niveau de difficulté. Si l'idée de passer des heures à imbriquer des morceaux de carton vous donne de l'urticaire, pas de panique. D'autres activités stimulantes ont des bienfaits semblables sur le cerveau. Patrick Fissler, qui s'intéresse particulièrement aux effets des loisirs sur la santé cognitive et le bien-être psychologique, recommande la lecture, ainsi que les jeux de société ou encore les jeux de cartes. Le mot d'ordre est de ne surtout pas ralentir le rythme de son activité cérébrale, ce qui peut être un piège pour les personnes à la retraite. On dit toujours que le cerveau est comme un muscle et qu'il faut l'entraîner, explique Mathieu M. Blanchet. En fait, ce n'est pas du tout comme un muscle, mais il faut néanmoins le garder actif afin d'éviter son déclin cognitif. 6 pièces de l'histoire du casse-tête. Vers 1750, le casse-tête aurait été inventé par John Spilsbury, rapporte l'historienne Anne Williams. À l'époque, il servait strictement d'outil éducatif. Les premiers casse-têtes étaient des cartes géographiques, dit-elle. Assembler les pièces aidait les enfants à mémoriser les lieux. 1933. En plein cœur de la Grande Dépression, le puzzle connaît une popularité inédite auprès du public américain. En février 1933, les fabricants ont produit 10 millions de casse-têtes par semaine, avance l'historienne. Il n'y avait pas autant de passe-temps qu'aujourd'hui, ce qui a contribué à leur popularité. 1939-1945. Les rationnements d'essence durant la Deuxième Guerre mondiale limitent les déplacements de la population. Souvent confinés à la maison, les familles suivent les nouvelles du front en écoutant la radio tout en faisant des casse-têtes. 1960. La compagnie américaine Springbok met sur le marché des modèles de casse-têtes de qualité supérieure, ce qui ravive l'intérêt pour ce loisir. 1990. La marque canadienne Rabbit lance une collection de casse-têtes en 3 dimensions qui connaît un vif succès chez les jeunes. 2020. Les périodes de confinement ravivent l'engouement pour les casse-têtes. Depuis, de nouvelles compagnies se sont lancées dans la production de puzzles et se sont mises à créer des designs nouveaux et très intéressants, observe Anne Williams. C'était Casse-tête, les bienfaits pour le cerveau. Un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 26 février 2025 dans Québec Science.